Il n'a aucune peine à placer le garçon dans un état de complète relaxation. Son corps était déjà au repos et semblait prédisposé à accepter une plus grande quiétude. Quand Eric ouvre la bouche et commence l'induction, c'est comme s'il n'avait jamais cessé d'hypnotiser. Sa voix est profonde, calme et neutre. Les mots viennent si facilement et avec une telle évidence, ils coulent à flot, baignés d'une chaleur apaisante et d'une cadence soporifique. Il ressent immédiatement la grande réceptivité de Joseph. Le garçon semble s'agripper intuitivement au sentiment de sécurité que dégage Eric. Son visage blessé s'alourdit, ses traits s'emplissent et sa bouche se détend. « Joseph, si tu es d'accord, tu pourrais... »« Pense à un jour d'été, » dit Eric. « Tout est merveilleux et agréable. Tu es allongé sur le plancher d'un petit bateau en bois qui tangue doucement. L'eau clapote et tu regardes les petits nuages qui dérivent dans le ciel bleu. » Le garçon répond tellement bien à l'induction qu'Eric se demande s'il ne devrait pas en freiner légèrement le déroulement. Il sait que souvent des événements graves peuvent accroître la sensibilité à l'hypnose, que l'angoisse intérieure peut fonctionner comme un moteur à l'envers, que le freinage se produit à une vitesse inattendue et que le compte-tour peut vite tomber à zéro. « Je vais maintenant compter à l'envers, et à chaque chiffre que tu entends, tu vas te détendre un peu plus. Tu vas sentir un grand calme t'envahir. Tu vas voir comme tout est agréable autour de toi. Détends tes orteils, tes chevilles, tes mollets. Rien ne te gêne, tout est paisible. Il te suffit d'écouter ma voix, les chiffres qui décroissent. Maintenant, tu te détends davantage. Tu es de plus en plus lourd. Tu te détends au-dessus des genoux, le long des cuisses, jusqu'à l'aine. Sens comme tu t'enfonces, comme c'est doux et agréable. Tout est calme et silencieux, d'une sérénité parfaite. » Eric pose une main sur l'épaule de Joseph. Son regard se fixe sur le ventre du garçon et, à chaque expiration, il prononce un nouveau chiffre. Par moments, il rompt le schéma logique, mais sans cesser le compte à rebours. Une sensation de légèreté irréelle et de force physique emplit Eric à mesure de l'avancement du processus. Tandis qu'il compte, il se voit lui aussi s'enfoncer dans une eau claire et cristalline, saturée d'oxygène. Il avait presque oublié cette sensation de mer bleue, d'océan. Souriant, il se laisse couler vers d'imposants récifs, une faille géologique qui plonge à des profondeurs vertigineuses. De petites bulles scintillent dans l'eau. Une sensation de bonheur envahit son corps. Il dégringole en apesanteur le long du mur rocailleux. Le garçon montre des signes manifestes de repos hypnotique. Un grand relâchement gagne ses joues et sa bouche. Eric a toujours trouvé que le visage de ses patients s'élargissait, comme s'il s'aplatissait. Moins beau, mais plus fragile et sans affectation. Eric plonge plus profond, tend un bras et touche la paroi du rocher qui défile. L'eau claire prend progressivement des nuances rosées. « Tu es maintenant complètement détendu, » dit Eric d'une voix calme. « Et tout est très, très agréable. » Les yeux du garçon brillent derrière ses paupières mi-closes. « Joseph, tâche de te rappeler ce qui s'est passé hier. Ça commence ?» comme n'importe quel lundi, mais le soir, quelqu'un vient chez vous. » Le garçon reste silencieux. « Maintenant, tu m'expliques ce qui se passe, » dit Eric. Le garçon hoche à peine la tête. « Tu es dans ta chambre, c'est ça? Tu écoutes de la musique ?» Pas de réponse. Sa bouche remue, comme si elle tâtonnait, cherchait quelque chose. « Ta maman était à la maison quand tu es rentré de l'école, » dit Eric. Il hoche la tête. « Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Lisa avait de la fièvre ?» Le garçon hoche la tête et s'humecte les lèvres. « Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres de l'école, Joseph ?» Le garçon chuchote quelque chose. « Je n'entends pas, » dit Eric. « Je veux que tu parles de façon audible. » Le garçon remue les lèvres et Eric se penche en avant. « Comme le feu, exactement. comme le feu, chuchote-t-il. J'essaye de cligner des yeux. J'entre dans la cuisine, mais quelque chose ne va pas. Ça crépite entre les chaises et des langues de feu lèchent le sol. D'où provient le feu ? Demande Eric. Je ne me souviens pas. Il s'est passé quelque chose avant. Il se tait de nouveau. Reviens un petit peu en arrière, juste avant ce feu dans la cuisine, dit Eric. Il y a quelqu'un, dit le garçon. J'entends quelqu'un frapper à la porte. La porte d'entrée ? Je ne sais pas. Soudain, le visage du garçon se tend. Il gémit anxieusement et retrousse sa lèvre inférieure en une grimace étrange qui découvre sa mâchoire inférieure. « Tout va bien, » dit Eric. « Tout va bien, Joseph. Tu es en sécurité ici. Tu es calme et tu n'éprouves pas la moindre inquiétude. Tu observes simplement ce qui se passe. Tu n'es pas là-bas. Tu observes simplement ce qui se passe à distance et il n'y a pas le moindre danger. »
« Les pieds sont bleuâtres, » chuchote-t-il.
« Qu'est-ce que tu as dit ?»«
On frappe à la porte, » bredouille-t-il. « J'ouvre, mais il n'y a personne. Je ne vois personne. Mais ça continue de frapper. Je comprends que quelqu'un me fait une blague. »
La respiration du patient s'accélère, son ventre tressaille par à coup. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demande Eric.
« J'entre dans la cuisine. » Et je prends une tranche de pain.
Tu manges un sandwich.
Mais on frappe de nouveau. Le bruit vient de la chambre de Lisa. La porte est entrouverte et je vois que sa lampe de princesse est allumée. Doucement, j'entrouvre la porte avec le couteau et je passe la tête. Lisa est allongée dans son lit. Elle porte ses lunettes, mais cligne des yeux et halète. Son visage est tout pâle. Ses bras et ses jambes sont tout raides. Puis elle braque la tête en arrière de façon que son cou se tende complètement et commence à taper des pieds contre le montant du lit. Elle continue à taper de plus en plus vite. Je lui dis d'arrêter, mais elle persiste, tape plus fort. Je crie et le couteau a déjà commencé à la transpercer et maman déboule dans la chambre et me tire et je me retourne et le couteau part, ça jaillit de moi. Je cherche d'autres couteaux, j'ai peur de m'arrêter. Je dois continuer, impossible de m'arrêter. Maman traverse la cuisine à quatre pattes, le sol est complètement rouge. Il faut que j'essaie les couteaux sur tout, sur moi, sur les meubles, les murs. Je tape et poignarde et soudain je me sens très fatigué et je m'allonge. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai mal partout dans le corps et j'ai soif. Mais je n'ai plus la force de bouger.
Eric sent que le garçon et lui sont suspendus dans les profondeurs de l'eau claire. Leurs jambes se meuvent doucement et il suit la paroi rocheuse du regard, de plus en plus bas. Elle n'en finit pas. L'eau s'assombrit et devient gris-bleu, puis d'un noir séduisant. « Tu avais vu ?» demande Eric, qui entend sa propre voix trembler. « Tu avais vu ton papa plus tôt ?»«
Oui. » « Près du terrain de foot, » répond Joseph.
Il se tait, semble hésiter, et regarde droit devant lui d'un air absent. Eric s'aperçoit que son pouls s'accélère et comprend que sa tension baisse. « Je veux que tu descendes encore plus profond, » dit Eric d'une voix douce. « Tu coules, tu te sens plus calme, plus à l'aise et... »«
Pas maman, »
demande le garçon d'une voix faible. « Joseph, dis-moi. « As-tu vu aussi ta grande sœur Evelyne ?» Eric observe le visage de Joseph, conscient qu'une hypothèse peut causer des problèmes, une fissure dans l'hypnose si elle se révèle fausse. Mais il est obligé de couper court. Il n'a plus assez de temps, il doit bientôt interrompre l'hypnose. L'état du patient est sur le point de redevenir critique. « Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu Evelyne ?» demande-t-il.
« Je n'aurais jamais dû aller chez elle. »
« C'était hier ?»
Elle se cachait au chalet,
chuchote le garçon avec un sourire.
Quel chalet ? Celui de tante Sonia, dit-il d'une voix lasse.
Dis-moi ce qui se passe dans le chalet.
Je suis là. Evelyne n'est pas contente, je sais ce qu'elle pense,
marmonne-t-il.
Je ne suis qu'un chien pour elle. Je ne vaux rien.
Des larmes commencent à couler le long du visage de Joseph. Sa bouche se met à trembler. Evelyne t'a dit ça ?
Je ne veux pas. Je ne suis pas obligé. Je ne veux pas,
gémit Joseph.
Qu'est-ce que tu ne veux pas faire ? Ses paupières commencent à tressaillir spasmodiquement. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Joseph ? Elle dit que je suis obligé de mordre et mordre pour avoir ma récompense. Qui dois-tu mordre ? Il y a une photo dans le chalet. Une photo dans un cadre qui ressemble à une amanite. C'est papa, maman et la petite Toumé de la série des Moumines. Mais...
Soudain, son corps se raidit. Ses jambes décrivent des mouvements vagues et très rapides. Il est en train de glisser hors de la très profonde hypnose. Eric le guide délicatement, le calme et le remonte de quelques niveaux. Il referme méticuleusement les portes de tous les souvenirs de cette journée et celles des souvenirs de l'hypnose. Rien ne doit rester ouvert au moment où il entame le délicat processus du réveil. Joseph est allongé avec un sourire aux lèvres quand Eric prend congé de lui. L'inspecteur se lève de sa chaise dans le coin pour suivre Eric dehors, puis à la machine à café.
« Je suis impressionné », dit Yona d'une voix calme, tout en sortant son téléphone.
Un sentiment de désarroi s'empare d'Eric, la sensation que quelque chose ne tourne définitivement pas rond.
« Avant que vous passiez des coups de fil, j'aimerais simplement préciser une chose », dit Eric. « Le patient dit toujours la vérité sous hypnose. » Mais il s'agit évidemment de sa vérité à lui. Il parle uniquement de ce qu'il considère comme étant vrai. Il décrit donc ses propres souvenirs subjectifs et non
« J'en suis conscient », interrompt Yona.
« J'ai hypnotisé des schizophrènes », poursuit Eric.
« Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?»
Joseph parlait de sa sœur.
« Oui, qu'elle exigeait qu'il morde comme un chien, etc. », dit Yona.
Il compose un numéro et porte le téléphone à l'oreille.
Il n'est pas sûr que la sœur lui ait dit de le faire, explique Eric.
Mais il se peut qu'elle l'ait fait, dit Yona en levant une main pour arrêter Eric.
Anya, mon trésor.
Une voix douce résonne dans le téléphone.
Est-ce que tu peux vérifier une chose?
Oui, exactement. Joseph Eck a une tante, une certaine Sonia, qui a une maison ou une résidence secondaire quelque part et...
Oui, c'est... Tu es adorable.
Yona lève la tête et regarde Eric.
Pardon, vous disiez ?
Simplement qu'il n'est pas non plus certain que ce soit Joseph qui ait tué la famille.
Mais est-ce possible qu'il se soit infligé ses blessures lui-même ? Est-ce qu'il a pu se couper de la sorte tout seul ? À votre avis ?
Pas vraiment. Mais en théorie, c'est possible, oui.
Dans ce cas, je pense que notre assassin est allongé là, dans cette chambre, dit Yona.
Je le pense aussi.
Est-il en état de s'échapper de l'hôpital ?
Non, dit Eric avec un sourire surpris.
Yona prend la direction du couloir.
Vous allez vous rendre à la maison de la tante ? Demande Eric.
Oui.
Je pourrais vous accompagner, dit Eric en commençant à marcher. Il se peut que la sœur soit blessée ou en état de choc.